développe même tout le propos de Claude, aura lieu à nouveau et avec sûrement un arrêt aux pages d'élus responsables, je ne sais pas si on peut dire comme ça, le 21 octobre, à la salle des fêtes de Marcillac. Et bien entendu, c'est ouvert au grand public, mais donc pour nous, la réflexion ce soir, c'est effectivement de rentrer peut-être dans le détail, dans les questionnements qu'on peut se poser par rapport au dispositif, mais c'est aussi de pouvoir avoir une réflexion sur ce qu'est le travail, la valeur du travail, et voilà. Donc on a la possibilité d'aller dans les deux sens. Claude a bien sûr des documents, des témoignages sur la réalisation dans le cadre de ces 10 territoires, sur des témoignages aussi, et donc il peut aborder là-dessus. Et première question, Léna, tu as levé le doigt.
Je peux
plus tard. Tu poseras la question plus tard. Bon, d'accord. Oui, vas-y.
Moi, je veux savoir comment ça se fait qu'il y a une organisation différente, puisqu'il y a déjà en France quelque chose qui s'occupe du chômage, enfin, un organisme qui s'occupe des chômeurs, des demandeurs d'emploi.
Il y a Pôle emploi, vous voulez dire ?
Voilà.
Voilà. Oui, il y a Pôle emploi, mais vous voyez bien que Pôle emploi n'est pas suffisant pour régler le problème du chômage, puisqu'on en a, au bas mot, peut-être plus de 5 millions en France. Hein.
Et pourquoi il n'est pas capable ?
Pourquoi il n'est pas capable ? Parce qu'on est dans un principe qui consiste à dire c'est l'entreprise ou c'est le marché auquel il faut répondre. Et le marché fonctionne parce qu'il y a des gens qui vont faire un investissement financier, quelque part, pour faire en sorte qu'une entreprise fabrique des choses ou rende des services. Mais ces services ou ces choses fabriquées vont être vendues de telle manière à ce que l'on dégage des bénéfices.
Oui.
Voilà. Et donc, c'est donc le mécanisme simple qui fait que c'est le secteur marchand.
Voilà. Alors, le problème, il est un petit peu là, quoi. C'est-à-dire que, apparemment, il semblerait que l'entreprise en question, qui doit dégager des bénéfices, fonctionne exactement sur le modèle capitaliste.
Oui, c'est clair, évidemment. Oui, et comme je disais tout à l'heure, là, à notre journaliste, là, qui est parti, je lui disais, mais il y a 30 ans, la rémunération des investisseurs était de l'ordre de 5% au niveau des dividendes. Aujourd'hui, c'est 15% qu'ils exigent. Où sont les 10% qui manquent ?
Dans leur poche.
C'est dans leur poche. Et ce sont ces 10% qui font que, étant donné qu'il n'y a aucune pression sur les salaires, puisqu'il y a plein de chômeurs, eh bien, ils peuvent le mettre dans leur poche. Sinon, autrement, ils en seraient à 5%.
Et vous pensez qu'une solution telle...
je caricature un peu, toujours, quand même, inévitablement, mais...
Cette situation-là n'est pas une situation politique qu'on peut la traiter uniquement au niveau économique.
Alors attendez.
La situation du chômage,
oui.
De la résolution du chômage en France,
oui.
C'est quelque chose qui est purement économique, c'est pas politique.
Si, justement, voilà le grand problème, c'est que vraiment ça doit devenir politique.
Avec une entreprise, ça devient politique. Je comprends pas.
C'est-à-dire que,
l'entreprise, c'est la loi du profit.
Ben voilà,
donc,
oui,
c'est économique.
Oui, on est dans le libre marché, ainsi de suite, effectivement. Donc c'est l'économie, effectivement, qui prime sur le politique aujourd'hui.
Ah, voilà.
Oui, si vous voulez me faire dire ce que vous voulez.
J'aime bien
je suis d'accord avec ça.
Je préfère l'entendre.
Mais bien sûr, je suis complètement d'accord avec ça.
D'accord.
Bon, on peut analyser, mais moi, je ne suis pas un économiste, mais quand même. J'ai travaillé toute ma vie dans le milieu industriel et j'ai vu l'évolution des dirigeants des entreprises. Hein? Quand j'ai commencé, c'était des techniciens qui étaient chefs d'entreprise. Et puis après, ce sont devenus des gens du marketing, enfin des commerciaux. Et puis après, des gens du marketing. Et maintenant, ce sont des gestionnaires. Hein? Et les gestionnaires, ils n'ont rien à voir avec l'entreprise. Ils sont seulement intéressés par les stocks options et tout le reste. Ils n'ont rien à voir puisqu'ils restent 3 ans, 4 ans, et puis après, ils s'en vont pour aller autre part. Voilà. Donc, on a affaire à un monde complètement déshumanisé dans l'entreprise aujourd'hui.
Dans l'entreprise, vous dites ?
Oui.
Non. D'accord.
Complètement déshumanisé.
Je pense qu'on pourrait peut-être préciser. Est-ce que l'emploi, l'entreprise à but d'emploi est une entreprise qui doit dégager des dividendes ?
Ben oui, apparemment.
Ah, mais ça, moi, je lui pose la question parce que je ne sais pas. La définition de cette entreprise à but d'emploi, c'est une entreprise qui doit être créée dans le cadre de ce dispositif. Est-ce que cette entreprise à but d'emploi doit dégager des dividendes ? Est-ce qu'elle doit dégager des bénéfices pour rétribuer quelque actionnaire que ce soit ? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Alors, le BE, donc entreprise à but d'emploi, c'est déjà une entreprise qui va ressembler, et peut-être même va être une SCOP, ou quelque chose qui ressemble à cela. Donc, une SCOP n'a absolument pas de but de dégager des bénéfices.
Sauf pour investir.
Voilà. Alors, bien sûr, l'argent va être remis dans l'entreprise pour investir ou pour entretien de matériel, pour ces choses comme ça. Mais il n'y a aucune rémunération
d'un capital
quel que soit, parce que de toute façon, au départ, il n'y a pas de capital.
Mais qui sont les gestionnaires de cette entreprise ?
Alors, les gestionnaires, c'est un comité.
C'est le comité.
C'est le comité de pilotage qui va rassembler énormément de monde.
Et c'est eux qui gèrent la...
Et ils vont... Tu n'es pas d'accord,
qui gère
François ?
L'entreprise.
Ah. Qui gère l'entreprise ? Ce n'est pas le comité de pilotage. L'entreprise, elle est autonome.
Oui, l'entreprise est autonome, mais elle est sous contrôle.
D'un comité de pilotage.
Elle est sous contrôle d'un comité de pilotage qui, lui, rassemble toutes les parties actives du territoire.
Donc,
ce n'est
pas une SCOP.
Exactement. Ça ne peut pas être une SCOP.
Non, mais...
Certainement pas.
Alors, je vais vite aller vous donner une réponse par rapport à ça. Mais puisqu'on est sur la carte de la France, et voyez, vous avez les 10 territoires qui sont mentionnés là. Et vous voyez qu'il y a un grand vide. La Nouvelle-Aquitaine que l'Occitanie, il n'y a personne. Il n'y a pas de territoire. Donc c'est une belle occasion pour nous de devenir acteurs pour qu'il y en ait quand même. Vous ne croyez pas ?
Je vais poser d'abord la question de comment ça fonctionne et si ça nous convient avant de dire il en faut.
Eh bien voilà, vous viendrez le 21 octobre à Marcillac, à la salle des fêtes, et là il y aura des témoins du territoire de Mauléon, qui est dans les Deux-Sèvres. Il va vous raconter comment ça s'est passé chez eux,
ce territoire-là.
Mais c'est là que la façon dont ça fonctionne, dont ça va être géré, ça conditionne aussi. Et qu'est-ce qu'on entend par la réussite ? Et il faut que ça fonctionne. Parce que moi, je n'ai pas entendu la place des salariés ou des demandeurs d'emploi dans le comité de pilotage et dans la gestion de cette entreprise. Je me questionne beaucoup parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de souffrance dans le monde du travail aujourd'hui. Et que si c'est pour créer du travail et recréer de la souffrance au travail... Ça me fait un peu peur.
Alors, vous n'avez pas tout à fait entendu ce que j'ai dit, puisque, en fait, celui qui est embauché, il coopère dans le BE. Il est partie prenante et il a son droit à la parole.
Mais est-ce qu'il a une voix ? Parce que le droit à la parole, il y a beaucoup de paroles qui ne sont pas entendues. Est-ce que le travailleur ou le demandeur d'emploi dans la création, la conception de ce projet, il a une voix ?
Oui. Alors, il a plus qu'une voix, puisque il dit ce qu'il a à dire et on tient compte de ce qu'il dit. C'est fondamental, ça.
Il a une voix. Oh. Chaque personne, il est à égalité avec...
Oui, complètement. Complètement. Et pourquoi et ça s'appuie justement sur ce que je vous indiquais tout à l'heure, de l'ATE, qui a été une expérimentation qui s'est faite donc à Noisy-le-Grand dans le cadre du mouvement ATD Quart Monde, où là, il y a vraiment des gens très 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 précaires qui sont venus dans cette entreprise. Hein, c'est une entreprise qui fait de la remise en état de matériel informatique, hein, entre autres. Et ils sont tous partie prenante, complètement, complètement. Mais évidemment, ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, de l'encadrement, enfin, tout ce qui est nécessaire pour des gens qui ont été malmenés par la vie, quoi.
Non, par la société.
Bon.
Voilà,
si tu veux.
Parce que tu as mentionné que dans la loi, il était prévu une évaluation.
Oui.
Du 5 ans, etc.
Oui.
Est-ce qu'il y a il doit y avoir des critères pour cette évaluation?
Ben, oui.
Est-ce que tu as une idée de ces critères?
Ben, les critères...
Ça peut apporter une réponse sur les objectifs de l'entreprise.
Oui, ben, les critères, c'est que déjà, ces territoires ont comme objectif maximum d'embaucher 200 personnes.
Donc ce ne sont que des critères d'embauche, il n'y a pas de critères économiques derrière.
Ah ben, les critères économiques, ben, il va falloir que ce soit viable.
Voilà.
Bon. Or, la viabilité, elle est faite au travers du fait que le coût des prestations qui va être faite va être inférieur à si c'était une entreprise normale, entre guillemets, puisqu'il y a environ 70% qui sont des salaires qui sont payés au travers des 34 milliards qui sont, enfin,
si,
disons, d'une partie, bien sûr.
Si j'ai bien compris. Il y a à peu près 30%
oui.
qui devait être financé par
la prestation réalisée. Voilà.
Donc j'imagine que dans les critères d'évaluation, il y a peut-être aussi un critère économique. C'est-à-dire que si l'entreprise, au bout de 5 ans, elle a besoin, au lieu d'avoir de se satisfaire des 70%, elle a besoin de 80 ou 90% pour survivre, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben,
je sais pas, non,
on verra.
Voilà. Non, j'avais une autre question, ça va t'abuser de la parole. Est-ce que tu as des exemples, comme tu as parlé du fait que la loi interdisait à EDE de produire dans le secteur marchand ou de produire en concurrence avec d'autres entreprises du territoire?
Oui.
Est-ce que tu as des exemples de ce qu'ils peuvent produire, enfin,
Alors, j'ai déjà décliné tous les besoins et les 8 secteurs vers lesquels les entreprises s'orientent pour pouvoir répondre finalement à des emplois utiles.
Oui, mais on a dit, enfin, personnellement, j'ai un peu de mal à voir.
Tu peux aller sur les exemples.
Je vais aller vers.
Quelque chose qui n'est pas marchand et qui n'est pas en concurrence avec d'autres prestations du territoire, ça devient quand même très.
Alors,
limité.
Recenser les travaux utiles sur le territoire. Voilà. Donc, comme je vous ai décliné tout à l'heure, les 8 secteurs. Hein. Donc, voilà. Donc, bibliothèque itinérante, aide à l'organisation de fêtes et d'événements locaux, animation touristique, jardin partagé, hein, recyclage, réemploi, collecte en porte-à-porte de déchets là où les services n'interviennent pas, formation à l'auto, réparation, mise en place de ressourceries, agriculture, conduite d'engins agricoles, maraîchage, développement de circuits courts de commercialisation fruits et légumes. Enfin voilà quoi. Mais vous les connaissez, tous ces secteurs-là, qui
mais
sont
si
déjà
on,
développés
si on
en partie.
Le territoire de Comte-Marcillac, par exemple.
Oui.
Qu'est-ce qui est dans tout ce qui est décrit là, qu'est-ce qui ne rentre pas soit dans le secteur marchand, soit en concurrence avec des choses déjà existantes?
Ben,
j'ai du mal.
Mais il n'y a pas de différence à la nuance près. Que là, et c'est ça le fondamental, c'est peut-être ça répondra à notre ami, à savoir qu'il y a deux choses qui changent la donne dans cette EBE. C'est la première, c'est que ce sont des emplois CDI, et vous imaginez pour une personne qui depuis 2 ans ou 3 ans n'a pas de travail, et tout d'un coup on l'embauche avec un CDI, la vie change complètement pour elle.
Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord.
Bon, deuxièmement, cette personne, elle est embauchée pour faire des choses correspondant à ce qu'elle sait faire. Et éventuellement, elle suivra une formation pour faire des choses qu'elle aimerait faire. Hein. Et troisième chose, je ne sais plus, et elle ajustera son travail en fonction du temps.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, et ça je le comprends.
Donc on tient compte des personnes.
Les restrictions de la loi, c'est ce que j'arrive pas à voir. Avec les restrictions de la loi, pas de secteur marchand, pas de, de concurrence, qu'est-ce qui reste ?
Eh bien, il reste plein de choses encore.
Alors, la preuve est. Peut-être que dans les exemples de territoires, tu te souviens, tu m'as montré à l'heure, dans les exemples de territoires, je ne sais pas où ils sont, l'actualité peut-être, dans les actualités.
J'aimerais dire quelque chose.
Oui, vous pouvez toujours.
Dans le rond, services aux collectivités, entreprises, associations, renfort, encadrement, cantine scolaire, etc., c'est exactement les emplois aidés qu'on vient de faire sauter.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Mis à part que là, ils vont être sous une autre forme. Voilà. Ils vont être sous une autre forme. C'est-à-dire que bien souvent, on vient vous proposer quelque chose. Hein, on vient vous proposer un emploi et puis vous allez le proposer à la personne qui est venue vous voir. Là, ce sont les besoins qui sont d'abord évalués et ensuite on les propose aux personnes qui correspond dans leur savoir-faire. Voilà. Il y a une grande différence. Et comme je vous dis, dans le fait que enfin j'ai un CDI.
Mais pourquoi vous dites j'ai un CDI, puisqu'on n'est pas du tout sûr que les CDI seront reconduits d'après ce qu'on sait maintenant sur les lois, sur la loi travail, on n'est pas du tout certain que ce soit des CDI.
Alors, l'EBE, c'est une entreprise qui est complètement hors des systèmes.
Non,
c'est
pas possible. Non, puisqu'elle remplace les services qui existent déjà en partie d'après ce que vous nous avez dit, dans le rond dont on parlait tout à l'heure, il est bien évident qu'il y a déjà des emplois qui sont prévus au niveau des collectivités locales et des choses comme ça, pour, par exemple, les enlèvements d'ordures ou je ne sais quoi. Hein, et les propositions qui vont être faites par cette entreprise-là viendront se juxtaposer à cela, puisque vous récupérez de l'argent, qui est de l'argent des collectivités territoriales ou de l'État, qui vont permettre effectivement de diminuer le coût travail de l'individu qui sera embauché.
Oui.
Donc, en définitive, c'est un remplacement de structures existantes, tant au niveau de l'emploi qu'au niveau des structures qui existent déjà, que vous proposez.
Alors, il est justement, l'organisation est faite pour faire en sorte qu'il n'y ait pas concurrence sur ce qui existe. Ça, c'est très très clair, c'est un fondement. Alors,
c'est difficile.
Le tout, c'est de le vouloir.
Vous assurez quelque chose,
on
ne peut pas être certain que ce que vous assurez fonctionnera. C'est ça qui est quand même difficile.
Alors, on va voir ce
que... Je ne sais pas où c'est sur.
Il faut pouvoir imaginer les choses qui existent. Ça, pas
encore. Mais donne-nous un exemple.
Il y en a plein, le truc, l'exemple, il n'a qu'à en sortir.
Bon, non, voilà. Voilà ce que cette personne nous dit, là. C'est aberrant de partir de la personne pour la ramener vers l'emploi si, une fois dans l'entreprise, on n'adopte plus cette logique. Aujourd'hui, on a souvent l'impression que le problème dans l'entreprise, c'est le salarié, alors que c'est la solution. Dans ce projet, on inverse les choses.
L'exemple d'un territoire qui a lancé une entreprise.
Le problème, c'est de le trouver sur le site.
Oui, c'est ça, découvrir l'expérimentation dans une idée.
Voilà. Zoom sur territoire.
Voilà, c'est en train de.
Ça va venir. Alors voilà.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Alors donc là, notre voix compte et c'est très important. Voilà. Bon. Voilà, une personne qui dit ça. Voilà.
Lire l'article. Tu vois, il y a un point de suspension, l'article incomplet là.
Voilà.
Sur Actipol à Thiers.
Alors vas-y.
Ça y est, mais attends, c'est Internet, on voit, ça tourne.
Alors,
voilà.
Alors, je vous le lis. Actipol, l'entreprise à but d'emploi installée à Thiers, a opté pour un statut de société coopérative d'intérêt collectif. Les salariés ont pris des parts dans l'entreprise. On voit au chapitre et apprécie cette implication. Avant l'ouverture de l'EBE, on passait notre temps à dire aux personnes privées d'emploi, c'est votre projet. si une fois l'entreprise créée, elle ne l'appartient plus, ça n'a aucun sens, explique donc Laure Descoubes, directrice d'Actipol.
Ils font quoi, Actipol ?
Justifiant le choix de l'entreprise à but d'emploi berthiernoise de se constituer en SCIC. Ouverte le 1er mai dernier, elle compte aujourd'hui 30 salariés. Le choix de la SCIC a fait l'unanimité. Tous les salariés embauchés à l'ouverture de l'EBE ont pris une part sociale. Cela semblait naturel. Seuls deux salariés arrivés plus récemment ne sont pas associés. Alors, Duna Akechaeria en fait partie. Je veux mieux connaître l'entreprise et son fonctionnement avant de prendre ma décision. Au départ, certains avaient du mal à comprendre ce qu'est une SCIC. Un gros travail de pédagogie a été effectué et il faut faire des piqûres de rappel. Aux côtés des salariés, la SCIC compte quatre catégories d'associés.
Les collectivités, les initiateurs du projet.
Les soutiens et les clients. Oui, merci. Les soutiens et les clients et fournisseurs. Parmi eux, deux structures de l'insertion par l'activité économique et les salariés de Pôle emploi. Preuve que le projet associe tous les acteurs du territoire.
Eh oui.
Les activités de l'entreprise.
Ah oui, mais justement, alors, là, je ne les vois pas apparaître.
Oui,
comment ça, c'est sur la structure de l'entreprise.
Oui, alors après, on va y arriver.
La moitié de la salle qui a la même question.
Et oui,
j'aurais dû répondre.
Alors, on continue quand même, travaux pratiques sur le fonctionnement de l'entreprise. Vous voulez savoir les travaux?
Qu'est-ce qu'elle fait?
Alors. Alors,
on descend,
travaux pratiques sur le fonctionnement d'une entreprise. Les salariés ont souvent peur de confronter leurs idées.
Ah ouais, mais c'est
quand on est représentant.
Continue à faire défiler.
Vous voulez encore aller plus loin?
Oui, qu'est-ce que fait l'entreprise, si tu veux, du point de vue fonctionnement classique de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fabrique?
Oui,
elle produit quoi? Un service?
Actipol.
C'est quoi?
Alors,
Actipol.
Mais oui, mais attends.
Alors, attendez. Non, il faut que j'aille autre part pour retrouver.
C'est sur notre type de téléphone.
Il faut que je trouve autre part.
Bon, on a quand même un éclairage là pour le moment. C'est un choix qui a été fait sur une SIC. C'est gyroscope, mais c'est plus tout à fait les mêmes.
C'est pas celui-là.
Non. Non.
Alors, où est-ce qu'il y a
découvrir, mettre en place la démarche, parole 2, devenir partenaire adhérent, actualité. Actualité, c'est dans l'actualité, il me semble me souvenir.
C'était dans l'actualité.
Actualité, oui.
Alors, où est-ce qu'il y a?
En dessous, descend, descend, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, pardon. Voilà, là. Clique dessus, on sait jamais. Ah, ben c'était ça. Événement, voir une. Ou projet peut-être. Un projet.
Ouais.
Bon.
Alors voilà.
Donc, voilà. Et ben voilà. Là il y a des réponses à qu'est-ce qu'on peut y faire.
C'est pas le travail qui manque, du bûcheronnage aux visites guidées en passant par la mise en place d'un garage solidaire.
On va lire l'article.
Alors.
Voilà. Voilà. Donc. Avec la roulette, voilà.
Voilà, alors, donc, à Moléon, voilà, entretien des routes, entretien de l'espace vert et jardinage, maraîchage, récupération et remploi de tissus, réutilisation de bois, garde-malade, nettoyage de locaux, lavage de draps pour des chambres d'hôtes, activité de lombriculture, bûcheronnage, création d'un camping.
Donc ça veut dire qu'on est dans la
concurrence. Ah, on est complètement dans la concurrence.
100%. Mis à part qu'il ne devait pas y avoir ces services-là, là, voilà, à Moléon.
C'est la différence. Alors après,
ça devient grave. Parce que comment? Il y a 70% qui ne sera pas payé par le patron. Hein? Bon, ben ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui payent.
Mais il n'y a pas de patron.
Non, il n'y a pas de patron. Mais c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de patron qu'il n'y a pas une richesse qui est produite. Mmh. Et la richesse qui est produite, elle va être subventionnée avec toutes les aides qui servaient à autre chose avant.
Écoutez, excusez-moi.
Non, non, mais moi j'aimerais bien, vous voyez, quand on parle de travailler, qu'il y a quelqu'un qui travaille, qui produit une richesse, qu'on parle aussi des profits en même temps. Alors c'est facile de dire il n'y a pas de profit là. Hein, mais il y a quand même une richesse qui est créée.
Eh bien oui. Et alors, et ça va revenir en écho à la collectivité. Parce que ces gens qui vont avoir un travail, eh bien elles vont cotiser. Elles vont consommer vraisemblablement un peu plus. Elles vont certainement être en meilleure santé.
Oui, mais pour 70%, c'est quand même nous qui payons leur salaire.
Ben, non, on paye pour l'instant les personnes qui sont au chômage. Avec ça, on paye les gens qui sont au chômage. Alors à choisir, je préfère que les personnes deviennent dans l'autonomie et qu'elles aient une dignité pour elles, plutôt qu'elles soient dans la dépendance.
Oui, mais moi, je ne fais pas ce choix-là. Moi.
Ah bon.
Je dis qu'il y a ce qui provoque le chômage alors qu'il y a des besoins.
Comment ?
Qu'est-ce qui provoque le chômage alors qu'il y a des besoins et qui fait des profits immenses
Mais
qui ne sont jamais remis en cause? On ne changera pas la société avec ça. Moi, je dis que la démarche, elle peut être généreuse, mais elle est mauvaise, à mon avis. Hein? Et pareil, quand tout à l'heure, là, c'est plus philosophique, tu dis tout le monde a le devoir de travailler. Il faudrait que tu t'expliques là-dessus, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein.
Oui, la dignité dans le travail, c'est pas forcément quelque chose.
Moi, j'ai failli la perdre dans le travail.
Un repère absolu, ça.
Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes en proximité des personnes qui n'ont pas de travail.
Ah ben moi, j'ai été 2 ans sans travail.
Eh ben alors.
Je sais de quoi tu parles. Effectivement, pour l'individu, il y en a même qui sont prêts à faire n'importe quoi. Mais c'est pas comme ça qu'on changera la société.
Alors écoutez-moi.
Faire n'importe quoi, c'est pas vivre.
C'est pas moi.
C'est pas retrouver sa dignité.
C'est pas moi qui parle, mais c'est un témoignage d'une personne qui dit ceci. Et ce sont des personnes qui sont en lien avec.
Mais c'est pas la peine de le lire. Je l'imagine, le témoignage de la personne. Ça lui change toute sa vie d'avoir trouvé du boulot. Mais le problème, il se pose en permanence avec des solutions comme ça. Excuse-moi de te le dire, mais c'est sincèrement ce que je pense. On ne change pas la société, c'est la société qu'il faut changer. Et on ne change rien, là. Hein ?
Moi, je ne dirais pas que la démarche est mauvaise. Elle n'est sûrement pas mauvaise, elle est noble, elle est généreuse.
Voilà, je suis d'accord
avec
toi.
Mais elle est parcellaire. Je crois que c'est une sorte de pied de nez qui est donné au CAC 40. Voilà ce qu'on pourrait faire si, avec un peu de bonne volonté, et en s'appuyant sur des choses comme ça, effectivement... Ouais. Bien sûr qu'il faudra changer la société.
Pas en créant des entreprises et en les remettant dans le circuit économique classique, de façon à ce qu'il y ait du profit quelque part, et que ce soit toujours, effectivement, comme le dit Alain, les mêmes qui payent. C'est pas normal. Quelque part, il y a un défaut de combinatoire. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que, effectivement, ça a été pris en conscience par un certain nombre d'individus qui ont intérêt à ce que ce soit pris en conscience. Si c'est El Khomri qui a signé l'expérimentation, c'est peut-être pas pour rien. C'est parce qu'on a besoin, quelque part, de déstabiliser les structures qui existent actuellement, de façon à les remplacer par d'autres. C'est bien ce que vous dites. Et je suis désolé, moi, que les structures actuelles ne fonctionnent pas, parce qu'elles ont été définies, vous le savez presque tous, à la Libération, quand on a mis en place le système social actuel. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Qu'on est en train de tout démolir pour mettre à la place quoi? Du profit. Et c'est toujours des entreprises et des profits. Et là, effectivement, excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord du tout.
Je crois qu'on peut faire l'honneur aux initiateurs du projet de ne pas avoir...
Bien sûr, non, mais c'est généreux, ça, on l'a reconnu.
Ils ont les mêmes analyses que nous, que vous, que moi, je suis sûr. Ils essayent, à court terme, de sortir de la merde des gens qui sont dans la panade.
Malheureusement,
je crois que les choses longue durée,
on ne fait que
se sont accoquinés avec des gens qui vont les exploiter. Et comme le disait monsieur tout à l'heure, on a vu comment dans les entreprises passées, il y avait des gens qui avaient des compétences relatives à l'entreprise et qui maintenant sont remplacés par des gens qui n'ont aucune compétence.
Ce qui va dans votre sens, c'est que l'unanimité du Sénat, des sénateurs et des députés se soient faites sur ce projet. C'est bien évident que ces gens ne sont pas sincères quand ils...
Ben, évidemment.
Mais je pense quand même que les initiateurs du projet ne sont pas si naïfs que ça.
Les autres en face ne sont pas si naïfs non plus. Croyez-le bien.
Léna, tu voulais parler, tu as retourné ta question.
Moi, je pense que vous avez raison. Avec un projet comme ça, on ne va pas changer la société. Ça reste dans on cure quelque chose qui est déjà malade depuis longtemps. Mais comme il dit Claude, ces gens-là n'ont peut-être pas le temps d'attendre que nous, on a changé la société en 50 ans.
Mais ça pourrait être voilà. Et ça dure depuis longtemps déjà.
Mon idée, avec ce truc, c'est plutôt... On a une loi qui nous permettrait de prendre de l'argent des caisses de l'État pour créer quelque chose qui pourrait être utile et dans nos sens à nous. Je pense qu'il faudrait faire plus, réfléchir davantage à ces 8 propositions qui sont là, parce que ça, ce sont tous des travaux qui ont, comme disent les autres, ils étaient déjà faits par quelqu'un, on les a laissés tomber, et maintenant, on va les faire payer par quelqu'un qui est embauché au SMIC. Parce que tous vos travailleurs sont payés au SMIC. Et oui. Je pense que ce serait bien de mettre plus de réflexion. Qu'est-ce que ça pourrait être comme boulot, comme entreprise, dans une économie parallèle à l'économie marchande, qu'on pourrait créer pour vraiment faire quelque chose qui peut durer et qui soit utile à long terme. Et ce n'est pas le recyclage des 3 ordinateurs.
Oui, ça aussi, en plus.
Et qu'est-ce qu'on fait des... Parce que dans les chômeurs, il y a aussi beaucoup de chômeurs diplômés avec des compétences spécifiques et autres, enfin en tout cas spécifiques.
Ils iront faire du chômage.
Quelle place ils vont avoir dans ce type de système?
Eh bien, peut-être qu'eux, ils vont assurer la structure dont a besoin l'OBE, par exemple. Ben oui.
Oui, mais qui sont qui ont des qualifications spécifiques, ça ne veut pas dire qu'ils sont compétents pour gérer une entreprise et du personnel.
Non, j'en sais rien, mais je pose une question. Mais la priorité, là, en l'occurrence, c'est vraiment les gens qui sont depuis très très longtemps.
Mais il y en a des hautement qualifiés qui sont.
Eh bien, alors justement, peut-être bien qu'elles trouveront leur place.
Mais au SMIC, avec des compétences et des qualifications,
ça n'est pas. Le salaire minimum sera le SMIC, mais pas seulement. Alors, je vous réponds ce que je sais. Alors. Comment dirais-je le voilà, Moléon, c'est le premier exemple. Eh bien, il y aura la personne qui anime le territoire de Moléon qui sera là le 21 octobre. Vous pourrez l'écouter, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez, et il vous répondra aussi par rapport au fait qu'effectivement, on est dans un système économique qui broie le monde, et ainsi de suite, et qu'il faut faire la révolution, et ceci, et cela.
Ben oui, okay. Ben, il ne s'agit pas de faire la révolution.
Mais non, mais enfin,
ne vous moquez pas de ça, parce que c'est la réalité.
Je me moque pas.
Ah ouais, j'avais cru percevoir une tête d'ironie. Mais
non, je ne me moque pas, parce que moi, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au secteur marchand? Je vous ai dit qu'il y a 30 ans, c'était pas tout les mêmes personnes qui étaient nos dirigeants. J'ai tout connu, moi, personnellement. Hein. Toute l'évolution de l'entreprise privée.
Comment? On met pas en cause votre bonne foi.
Et j'ai pu l'analyser aussi.
Vous. Je crois qu'il y a matière à réflexion.
Bien sûr.
C'est un point très, très important.
Ceci étant, il faut bien se dire que les critères de réflexion qu'on a aujourd'hui sur le travail seront obsolètes dans moins de 10 ans.
Exactement.
Avec l'automatisation, la robotisation, etc. Le problème ne se posera pas du tout de cette façon.
Voilà,
ce sera un problème de répartition de la richesse, point. Et on va y aller très très vite. On y est déjà.
C'est déjà un problème de répartition de la richesse.
Ça a été proposé
c'est pour ça que je parlais des profits. C'est là qu'il faut aller.
Il y a déjà un bonhomme qui a proposé une répartition aux dernières élections en France.
Le programme d'amont sur le salaire, qui a fait rigoler tout le monde, c'était. Et je ne suis pas en train de vendre amont, pas du tout. Mais c'était pas con du tout.
Ça a été initié par un type qui s'appelait Gortz, qui a vécu dans les années 30-40, et qui a démontré effectivement que la société allait peu ou prou vers un système où il fallait faire une répartition des revenus, parce qu'autrement, ça se casserait la figure. Le système se casserait la figure. Le système économique actuel, hein, par capitalisation, on a failli passer en 2008, mais les bulles spéculatives, elles vont recommencer dans pas longtemps. Voilà, c'est tout.
Ben oui.
Je veux dire que ça, c'est quelque chose qui, effectivement, pour le moment, est intéressant dans la mesure où ça peut permettre à des gens qui sont en détresse, parce que ce sont des gens en détresse, de trouver quelque chose. Mais le système en lui-même, il est déjà, pour moi, inquiétant. On va recevoir quelqu'un, on va lui demander qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que, etc. Oui, mais les compétences, disons, qui sont généralement requises dans un emploi qui soit relativement rémunéré correctement, pas un SMIG, c'est autre chose que ça, quoi. C'est tout.
On ne peut pas dober sur des gens qui veulent tirer des gens de la panade dans l'immédiat. On peut leur dire attention. Voilà, je crois que c'est un peu le message.
D'accord.
Oui. Moi, je suis pas naïf au point de penser qu'effectivement, ça va régler tous les problèmes. Mais il me semble qu'il y a un élément important, c'est que l'entreprise s'appelle à but d'emploi. Et que un des problèmes dans les entreprises, c'est que l'emploi n'est pas un but, c'est un inconvénient. C'est une charge dans les entreprises actuelles. Et que là, c'est à but d'emploi. Alors on peut penser que le travail, c'est aussi quelque chose qui nous. C'est
tu fais partie de la.
Non, qui nous broie.
Mais de notre côté,
derrière ce mot travail, il y a ce sentiment d'utilité sociale. C'est-à-dire que si quelqu'un.
Alors, il ne faut pas confondre travail et emploi.
Par contre,
ne vous interrompez pas, s'il vous plaît, parce que.
Il ne faut pas confondre travail et emploi, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Là, c'est à but d'emploi.
Ouais.
Et je trouve que c'est intéressant que, à travers ce système, ça ne va pas tout bouleverser, mais à travers ce système, on puisse proposer à des gens un emploi, c'est-à-dire une utilité sociale, rémunérée. Même si au départ, parce que je pense que ça va évoluer, même si au départ elle est rémunérée avec des fonds, partiellement avec des fonds publics. Parce que l'autre point intéressant, mais qui n'est pas nouveau avec ça, c'est que toutes les créations, comment dire, d'emplois liées à des services non rendus n'ont pas été créées par les entreprises traditionnelles, classiques, les entreprises. Pour qui le but c'est de ramasser de l'argent. Elles ont toutes été créées soit par des associations, soit par des coopératives. Alors, les services à la personne, par exemple, ça a intéressé personne. Maintenant, bien sûr, toutes les grosses sociétés financières font du service à la personne. Parce que c'est devenu solvable. Parce qu'il y a des gens qui acceptent maintenant de payer. Mais au début, c'est le secteur associatif. Pour le service à la personne, c'est uniquement le secteur associatif qui a créé des structures et qui a fait émerger ce besoin. Et ça, c'est un vrai besoin. Je ne dis pas que les conditions de travail dans les services à la personne sont mirobolantes.
Mais les niveaux de rémunération.
Hein, surtout les rémunérations.
C'est très pénible, très mal payé.
Voilà. Alors, la particularité, là, c'est pour moi, c'est que on décide de créer de l'emploi local, de l'emploi local, non délocalisable d'ailleurs, parce que c'est... Voilà. Moi j'ai vu un reportage dans un journal télévisé sur Mauléon. Ils ont démarré, si j'ai bien compris, ils ont démarré par la création d'un camping.
Ouais.
Il n'y avait pas de camping à Mauléon, et personne ne s'intéressait à créer un camping à Mauléon. Mais,
et pourtant, il y a Marcia qui l'enlève.
Hein,
il y a Marcia qui l'enlève.
Mais je ne sais même pas. Et donc, alors je ne sais pas qui, mais c'est le comité de pilotage sans doute qui a dû faire émerger le besoin d'un camping.
Voilà.
Bon, et donc ça a permis de faire travailler des gens pour créer le camping. Je ne sais pas, ils n'ont pas fini sans doute parce qu'il n'y a qu'un an qui travaille.
Voilà, et puis après.
Mais bon, c'est un peu pour défendre ce projet qui ne met pas en cause la structure financière de
36 milliards
de l'emploi en France.
Hein, 36 milliards, quand même, on nous a dit tout à l'heure.
Et dans, ces 36 milliards, il n'y a pas toutes les aides aux grosses entreprises, style Peugeot, style Renault, qui se sont quand même permis, malgré ces aides d'État, et qui n'étaient sûrement pas négligeables au moment où ils étaient prêts à boire le bouillon, qui n'ont pas, effectivement, interdit à ces boîtes de licencier sur place pour aller... Donc, on va dire qu'il y a aussi de la part... dire que c'est tordu aussi, et l'État. Hein. L'État, il est tordu aussi. Ah, hein,
c'est pas pour rien qu'il accepte de faire des trucs qui sont un peu tangents. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Sur les 36 milliards, 98% des recettes, c'est les 2,4% payés par l'employé de son salaire, puisque ça vient des salaires, et les autres 4% payés aussi par l'employé, mais qu'on appelle les cotisations patronales. On était d'accord, c'est les mêmes, c'est toujours le salarié qui la paye. Un est donné par l'employeur et l'autre est donné par l'employé, mais c'est les cotisations salariales. Donc les 35 milliards viennent des 6,4% donnés de la part du salaire que le salarié aurait touché, que le salarié. En plus, s'il n'avait pas eu accès aux cotisations à payer, il aurait touché un peu plus d'argent. Et heureusement qu'il paye les cotisations parce qu'on se retrouve avec une manne qui va aller à l'allocation chômage. En partie, donc pour dédommager ou indemniser les chômeurs longue durée, petite durée, plus les points de retraite des chômeurs qui sont quand même, qui cotisent à une retraite, ces 35 milliards vont aussi dans les cotisations pour le chômage, et vont aussi pour 3,3 milliards au financement de Pôle emploi. Ces 3,3 milliards de Pôle emploi, c'est-à-dire le bâtiment, les gens qui travaillent, etc., etc., correspondent à 64% du budget de Pôle emploi. Donc ça ne finance pas entièrement la structuration de Pôle emploi et sa manière de fonctionner. Donc on a une manne de 35 milliards, dont une partie pourrait aller revenir dans les caisses que Claude propose, et revenir normalement à hauteur de 60%, tu as dit, pour l'emploi d'un chômeur. 70%. Ça, c'est une part des recettes, ça c'est l'État, l'UNEDIC, ACEDIC, nouvellement Pôle emploi. L'autre part, c'est le RSA. Le RSA, c'est le département. Le département a une part à des budgets qui proviennent pour une partie, et dans une partie, ce sera celles-là qui iront pour indemniser les RSA, les personnes qui touchent le RSA, des taxes foncières. Pas en grande partie, mais une partie vient des taxes foncières que nous payons, si on a la chance d'avoir une maison, et de payer donc ces taxes foncières. Une autre partie vient des taxes, des TVA, des choses comme ça, sur des établissements publics, sur des établissements marchands, etc. Donc le département touche une manne d'argent pour indemniser le RSA. L'État touche une manne d'argent qui vient de nos cotisations pour indemniser le chômage. Entre ces deux sommes d'argent, 35 milliards d'un côté, moins les 3 milliards qu'on donnerait toujours à Pôle emploi, évidemment, et éventuellement... peut-être pas supprimer les cotisations de points de retraite parce qu'il faudra continuer à les payer, plus les parts du RSA, on a une manne d'argent, en effet, à dépenser. Ma question, que ce sera peut-être pas, je ne sais pas si Claude, tu pourras y répondre, mais dans 15 jours, il y en a peut-être qui pourront répondre. C'est un garçon qui voudrait un emploi à 20 heures par semaine, puisqu'en gros, c'est vers ce en quoi on va aller dans quelques années. 20 heures par semaine, ça suffit largement à notre malheur. Est-ce que la personne qui demande un travail actuellement, là aujourd'hui, demain, dans ce cas des expérimentations, un 20 heures par semaine, va toucher de la part de l'État ou du département la valeur de 20%, la valeur, ou 35 heures? Est-ce que les deux parts d'argent que j'ai trouvées, département et État, financeront pour l'emploi à 35 heures, parce qu'actuellement, si Macron ne change pas, c'est mal parti, mais admettons, mal parti. Comme tout est mal parti, on peut se poser des questions et on est parti pour s'en poser. C'est mais moi, ce que j'aimerais savoir, et c'est plutôt peut-être la semaine prochaine, dans 15 jours, ça sera la solution, comment cet argent qui déjà existe va être redonné à ces EBE pour payer les salariés, ou pour que les salariés se payent. Le mec, il dit, je veux que 20 heures. Est-ce que la structure EBE va toucher 35 heures, puisque c'est un emploi?
Je ne suis pas capable de répondre.
Ça serait intéressant, parce que si je prends 5 heures, il peut le payer, il le paye au SMIC, et que le mec, il veut que 20 heures, parce qu'il en a bien assez pour, ça le fatigue assez, il pourrait toucher quasiment un double SMIC à hauteur de 20 heures. Là, ça commencerait à être intéressant. Mais est-ce que l'expérimentation n'a pas mis un barème? Ça sera à l'heure demandé par le salarié. Ce que tu disais au début, le salarié pourrait choisir ses heures.
On demandera à Bernard Arru qui sera là le 21 octobre.
Là, ça.
Il paye.
Ça commence.
Lui, il a une BE, il paye.
Ça sera intéressant de savoir. Mais t'as fait.
Non, mais. C'est
une question.
Est-ce
que quelqu'un a un
calculateur
sur son portable et que vous pourrez utiliser 35 milliards par un salaire de SMIC, combien de gens qu'on pourrait payer avec ça?
Ça veut dire que l'État fera pas mal de bénéfices sur les 35 milliards à travers les
35 millions d'euros. 35
millions
d'euros.
35 milliards.
Non, parce que 35 millions, 35 milliards divisé par 1000, ça fait 35.
Milliards, c'est un budget annuel, si j'ai bien compris. 1 000 euros, c'est un budget, c'est un salaire mensuel. Et le rapport de 1 à 12.
Quand même, c'est quand même.
Bien, Jean-Louis.
Donc, divisé par 12,
c'est
3 x 12, 36, allez.
J'ai une question. Non. Je crains quand même, si on ne met pas des garde-fous, un effet quand même un peu pervers, surtout sur cette idée du devoir de travailler, moi aussi ça m'a un peu interrogée. Un conseil départemental qui va mettre l'argent, une partie de l'argent du RSA dans cette opération pour les chômeurs de ce territoire, enfin pour les personnes qui sont éligibles au RSA. Elle peut très bien prendre la décision, peut-être, s'il n'y a pas de garde-fous, de dire, ben, pour cette région-là, dans la mesure où il y a une BE et que les gens ont la capacité d'avoir un emploi, je ne donne pas le RSA à ces personnes-là. Puisque de toute façon, vous dites qu'ils ont le devoir de travailler. Donc oui. Vous soutenez l'idée qu'en fait, ils ne peuvent pas être éligibles à des droits sociaux dans la mesure où on est en capacité de leur fournir un emploi à la BE.
Exact.
Le conseil départemental peut très bien prendre des dispositions.
Non, parce qu'on ne fournit pas un emploi. On décide avec les gens de ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont envie de faire.
Mais s'ils ne veulent pas travailler.
Ils ne sont pas volontaires, ils ne viennent pas à l'EBE.
Non, ils ne viennent pas à l'EBE, mais le conseil départemental peut dire, vous avez la possibilité d'avoir un emploi à l'EBE, je ne donne pas le RSA.
Ces territoires, l'enjeu de ces territoires, et c'est d'avoir au maximum 200 chômeurs longue durée, d'embaucher 200 chômeurs longue durée. C'est donc quelque chose à une dimension réduite. Il faut prendre ça en compte. Hein, ce qui veut donc dire que ce qui vous parlez de l'ordre du département, puisque
non, je ne parle pas d'ordre du département. Dis, on peut dire que les chômeurs, les personnes qui ont le RSA et qui résident sur ce territoire, elles ont une possibilité d'embauche. Donc elles veulent pas, travailler. Je peux très bien dire
qu'elles
non,
veulent pas RSA. Travailler.
Le conseil départemental peut le dire comme ça.
Ah oui, tout à fait.
Elles se sentent peut-être pas dans cette dynamique-là. Bon, ben c'est
Non, mais c'est un effet pervers. Après, ça change pas que le dispositif a de l'intérêt.
Il y a des choses qui doivent quand même passer par la loi.
Oui.
Le RSA, c'est une loi. Donc, il faudrait la modifier pour que.
Tout à fait.
Il y a quelqu'un de raisonnable qui lève le doigt depuis longtemps, donc on va lui donner la parole.
Juste, mais c'est toi qui avais évoqué la question des contrats aidés. Je voudrais savoir comment c'est complémentaire. Parce que les contrats aidés, pour certains, étaient tout à fait contestables, quand c'était des grandes collectivités qui embauchaient des gens. Mais je pense qu'il y a quelques dizaines de milliers, c'était des petites associations qui répondaient à des besoins exactement comme ça, qui ne pouvaient pas se permettre de proposer des CDI, parce que la loi était très restreinte. On aurait pu améliorer ce dispositif. Actuellement, le gouvernement, dans l'été, a décidé de mettre par terre des dizaines de milliers de personnes, d'associations, de gens en fin de droit, de gens qui étaient à 2 ans de la retraite, qui n'avaient plus droit au chômage, etc. Et pendant qu'on détruit des dizaines de milliers d'emplois, on va faire des opérations où on va construire quelques centaines d'emplois. Est-ce que ceux qui sont défendre ces projets-là sont vent debout contre la manière dont on détruit du jour au lendemain, au cœur de l'été, tous ces emplois aidés, qui certains avaient une réelle utilité sociale, autant pour les équipes de bénévoles qui portaient des projets depuis des années qui se trouvent annulés du jour au lendemain, que pour les personnes pour qui c'était quand même des sacrées bouées de sauvetage également. Quoi.
Oui, ben, je pense que ATD Carbone a certainement des emplois aidés dans son personnel. Et donc, à mon avis, il ne doit pas être tout à fait d'accord avec l'élimination des emplois aidés. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous répondre. Mais ATD Carbone est vraiment dans une préoccupation d'être au plus près des plus précaires, hein, des plus démunis. Voilà ce que je peux vous répondre. Hein. Et donc, bien souvent, effectivement, il y a un certain nombre d'associations qui sont dans cette proximité aussi de l'accompagnement, hein, des personnes précaires. Voilà. Donc, ils doivent être désolés. Et on voit bien comment ça se levait, la réaction. Ben oui. Bon, mais les emplois aidés... Ben oui, mais il y a combien d'emplois aidés qui aussi ont été ou sont utilisés sur des périodes de temps extrêmement courtes et puis on renouvelle ou...
Oui, c'est pour ça que peut-être c'est un dispositif qu'on peut améliorer, c'est-à-dire un statut amélioré, parce que là on peut plus autre chose. Je pense que
là on est dans la durée.
On a perdu quelque chose qui
on est dans la durée
très critiquable
et dans la coopération.
Mais on ne remplace pas rien, donc c'est encore pire.
Oui, mais...
Léna, il y avait.
J'ai un truc sur ce. C'est toujours ces CDI, c'est de longue durée, et en même temps, du dire en 5 ans, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir, ce loi. Alors, c'est un point. Pour moi, c'est contradictoire. Et la deuxième chose, tu parles des gens qui sont vraiment au chômage depuis longtemps, ils sont très précaires, ils sont dans la merde, jusque-là. Est-ce qu'un comité de pilotage a vraiment les compétences psychologiques de épauler les gens avec les problèmes qu'ils ont ?
C'est pas le comité de pilotage, mais ce sont des personnes qui seront à l'EBE ou qui vont faire appel à des gens qui vont être capables d'accompagner. Et oui, oui. Ça fait partie de cette conception, de cette prise en compte. Voilà. Le BE n'est pas seulement un pourvoyeur de travail. C'est un ensemble. C'est une coopération de ces gens qui vont être embauchés et qui vont, au travers justement du fait que bah, ça n'est plus un CDD et un CDI et qu'elles vont participer à l'activité, aux décisions de l'OBE, que ben, ces personnes-là elles vont retrouver leur dignité, elles vont retrouver une raison de travailler, elles vont retrouver enfin l'espoir peut-être de construire un avenir. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors après, ben, les gens qui sont embarqués dans cette aventure ben, sauront en dire beaucoup plus que moi, puisque moi, je ne suis pas dans cette aventure pour l'instant. Je ne suis que dans une dynamique qui fait que ça me semble répondre à un besoin, bon, sans, comment dirais-je, oublier effectivement qu'on est dans un système économique qui n'est pas celui qu'il faudrait qu'on ait. Hein, ça, je suis complètement d'accord avec ça, hein, soyez rassurés. Hein.
Ah mais...
Je suis tout à fait...
Oui, moi ce que je voulais dire, c'est l'histoire des contrats aidés, c'est un problème d'actualité. Mais quand le territoire zéro chômeur a démarré, il n'y avait pas l'acuité des emplois aidés. Et que, donc ça vient s'ajouter... la problématique, c'est-à-dire que ce que recouvraient les emplois aidés pourrait être décidé par une EBE, peut-être. Mais, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que il y a un facteur que vous oubliez quand même, malgré toutes vos belles paroles, c'est que, premièrement, c'est l'imagination au pouvoir, et deuxièmement, c'est le partage de la parole de chacun. Et donc ça va faire émerger des idées et des propositions, même dans le canton, dans les parages de Marcillac, je ne sais pas quoi.
Territoire.
Et que donc, là maintenant, on ne peut pas répondre, parce qu'on n'a pas l'esprit assez, assez ouvert, et on n'a pas avec nous les gens qui vont participer à ces entreprises-là. Donc voilà, il y a une question aussi de confiance et de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer, et puis on verra à ce moment-là. Alors peut-être que si on se réunissait après, on pourrait effectivement poser des questions et critiquer. Voilà, c'est tout.
Pour poursuivre ce que vient de dire Christiane, en fait, pourquoi on a envie de faire savoir que cette loi existe ? Pourquoi ? Ben, c'est d'abord pour faire savoir que ça existe, d'une part. Et deuxièmement, c'est que l'organisation qui est mise en place pour faire en sorte que ça existe sur un territoire, eh bien, c'est à nous, finalement, d'y apporter notre contribution. Alors, on a chacun nos points de vue, on a chacun nos idées, on a chacun, notre volonté, que ça existe ou pas. Et c'est parce qu'on va apporter tous notre écho qu'on a quelque chance que ça va se proposer ou s'organiser de la manière qu'on voudrait voir réaliser. C'est ça qui est, je crois, important. Alors, on peut être dans la critique, mais soyons dans une critique constructive. Et donc, qu'est-ce qui, demain, puisque ça va être le but du 21 octobre, c'est de rassembler déjà tous les acteurs qui œuvrent et avoir témoin sur cette expérimentation-là. Mais à la fin de cette journée, on va se poser la question, qui est prêt à s'investir de manière à faire en sorte... en Aveyron, il y a un territoire qui se met en place et qu'on l'ajuste en fonction de nos besoins locaux et aussi de nos convictions. Voilà, c'est tout. Hein. Donc les outils et les bras qui se relèvent les manches.
On fait que ça. Ouais.
Eh bien alors, tant mieux.
On fait que ça.
Tout à l'heure, vous nous avez dit que... Il y avait actuellement quelques expérimentations, combien ? Une trentaine de territoires, même
pas. Il y en a 10 normés, et puis il y en a d'autres en potentialité.
Il y en a 1000 qui sont en prévision.
100.
Peu importe. Ensuite, il y en aura 1000.
J'espère.
Voilà. Et alors, ça veut dire que, comme on le disait tout à l'heure, que l'argent qui va être réparti pourra d'autant plus diffuser un petit peu. N'importe comment, parce qu'on ne sait pas exactement comment les structures vont se mettre en place pour le moment. Donc, il y a effectivement un gros problème dès lors que l'on parle d'entreprise. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est pas l'esprit, c'est pas l'idée. Effectivement, l'imagination est au pouvoir, pour répondre à madame. Je suis tout à fait d'accord. Mais le fait qu'on commence par dire qu'il s'agit d'une entreprise, c'est déjà mettre le doigt dans un engrenage qui est délicat, à mon sens. C'est tout.
Qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit si c'est pour une entreprise ?
Ah ben, surtout pas une entreprise, parce qu'une entreprise, c'est constitué au niveau d'une mise en œuvre de finances, entreprise, capital. D'accord ? Moi, je pense plutôt à une solidarité.
Entreprise à but d'emploi.
Oui, justement.
Voilà.
Alors, comment vous l'appelez, donc ?
Mais vite. J'ai pas de dénomination à donner. Je dis simplement qu'il y a effectivement à voir avec une solidarité ou un partage d'un certain nombre de concepts, mais qu'il ne faut pas les placer d'entrée sous la responsabilité du gouvernement, des territoires et de je ne sais quoi. Nous sommes, en tant qu'individus, capables de proposer des structures qui permettent de fonctionner. Je prends un exemple très simple. Vous avez un village où il y a un château qui est en ruine. Autour du château, c'est la bruyère, c'est le désert. Qu'est-ce que fait le maire du village ? Il convoque les gens du village en disant « Bon, on aimerait bien restructurer ce truc. Est-ce que vous voudriez venir nous aider à débroussailler, machin, truc ?» Ça se fait. Le truc est débroussaillé. Bon, ensuite, il va falloir l'entretenir. Mais pour les paysans de toute la France, qui étaient 40% en 1960, qui sont... 55% maintenant, je ne sais plus combien, il y avait tout un tas de territoires qui étaient effectivement occupée par les agriculteurs qui débroussaillaient, qui entretenaient les chemins, etc. Ça ne se fait plus. Bon, mais pour les routes, c'est exactement la même chose. On a des gros bahuts qui passent, vous avez toutes les routes qui sont défoncées parce qu'il y a les tracteurs qui passent sur ces routes-là, et il n'y a pas de financement. Par contre, moi j'ai vu dernièrement la route qui a été réaménagée au niveau de Marciac et Novial, c'est une route qui était déjà en bon état relatif, et on l'a super goudronnée. C'est pourquoi qu'on dépense de l'argent dans ces structures. C'est pour les gens qui transportent, mais alors ils ne payent pas de taxes. Je ne comprends pas. Je veux dire que quelque part, il y a un système vici où c'est toujours les mêmes qui sont à la base et qui vont payer les différentes structures qu'on met en place. Et c'est ça qui nous gêne. Voilà.
Oui. Moi, je note que dans les différents travaux que j'ai vus, là, c'est tout des choses qui existent déjà, toutes sans exception. Et quand vous avez dit tout à l'heure, ça aussi, c'est une réflexion que je me fais en même temps, vous avez dit, ces créations d'emplois vont être créatrices d'emplois. Moi, je ne vois pas l'intérêt qu'il peut y avoir pour une femme d'aller travailler à l'extérieur pour un nombre d'heures qui risque d'être limité, pour un salaire qui risque de ne pas être trop élevé, pour ensuite aller filer ce fric-là à quelqu'un pour qu'il va garder ses enfants.
C'est la même chose pour un homme entre nous.
Oui, excusez-moi, vous avez raison. Vous avez raison, quand j'ai voulu intervenir, j'ai dit, il ne faut pas que j'oublie de le dire comme ça.
Tu l'as dit quand même.
Et puis, ouais, non, mais tu sais pourquoi? Parce que je pensais à mon épouse qui était une femme merveilleuse et qui a élevé 4 enfants, et à qui j'ai dit, si tu préfères élever les 4 enfants, tu restes à la maison, tu fais comme tu veux. Hein? Et on ne fait que de s'en féliciter. Bon, si ça vous a fait rire, je vais vous faire rire encore un peu. Mais ça... Non, j'ai retrouvé bêtement dans ma clé, enfin bêtement, je ne sais pas, une clé de voiture qui n'est pas à moi. Alors, vérifiez tout si vous avez une clé de voiture.
Alors, la clé, pour préciser, par rapport à Alain, c'est une clé de BMW.
C'est un clandestin.
Il y en a un qui doit être embêté, il va pouvoir ramener. Ah oui, c'est moi qui suis un homme. Il vient de trouver ça dans sa poche.
Dans sa poche.
Mais quand tu as été aux journées du patronat l'autre jour.
Mais, tu c'est sais, je te garantis qu'il faut être fort pour arriver à piquer une clé à un patron, parce que disons, ce qu'ils nous ont piqué, ils y tiennent. Hein.
La journée du patronat, je parlais de la manifestation qui était devant le MEDEF aujourd'hui.
Ouais. Bon, il devait bien y avoir quelques patrons infiltrés dedans.
Donc, en buvant un coup tout à l'heure, on se posait aussi la question du CDI. Macron propose de le supprimer, d'en faire autre chose. Et toute la noblesse ou l'intérêt que peut avoir ce territoire zéro chômeur, il réside par la création de CDI. T'as dit que t'avais commencé, toi, avec Nikonov et le livre, dans ces années 95.
Personnellement, 95. Voilà. Et ça a émergé en 93.
Ouais, 93, 24 ans. Ouais. Donc le CDI était à peu près encore le modèle, valeur sûre. Ouais. Ouais. Et donc que ça soit bâti sur ça, je veux bien, mais comme disait quelqu'un d'autre sur d'autres sujets, tout va très vite là. Là, il nous propose qu'il n'y ait plus de CDI dans les années à venir, que ce soit que des contrats au travail, ce qui pourrait très bien arriver si le CDI n'existe plus, contrat au travail pour débroussailler une route, en refaire un morceau. Et qu'on soit obligé de changer si ce CDI n'existait plus. Mais je suis d'accord aussi que c'est pas parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir qu'il ne faut pas agir sur le présent. Quand on héberge un sans-papier, on n'attend pas qu'il y ait une loi qui dit vous n'avez pas le droit, vous avez le droit d'héberger sans papier. Tu l'héberges et puis tout va bien après. Si...
Voilà, on verra bien.
Alors qu'on pourrait dire mais rentre chez toi, y a pas de... on n'a rien pour toi. Donc on fait bien des choses. C'est pas pour dire que c'est la panacée, mais on fait des choses. Le minimum, ça serait de réfléchir à quoi pourraient servir ces choses. Si on les arrangeait à notre sauce à nous. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, créer une entreprise qui refait la route à la place des phages. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit, c'était la... c'était marchand et concurrence. Moi, je verrais bien qu'une de ces sociétés, avec l'argent de ce que j'ai parlé, dont j'ai parlé tout à l'heure, et se retrouve... Oh, ma merde, on a pris le boulot des phages sur la route Marcillac, Novial, même presque à Conques. Et tout d'un coup, on ne s'est pas aperçu qu'on lui avait donné le marché et qu'elle a pu acheter des camions et que les bénéfices sont rendus à la population de Marcillac par des grandes fêtes ou des jeux, ce qu'on voudra. Le but, c'est peut-être ça, c'est d'amener peut-être des gens à réfléchir sur ce que nous, ou une partie des gens présents ici, voudrions changer un peu plus en profondeur. Si ça pouvait servir à ça, de mettre un mec, une personne au travail, pas trop longtemps, je lui ai dit tout à l'heure, pas pour 20 heures, qui vient utiliser ses autres 20 heures pour réfléchir à comment contrecarrer des pouvoirs malsains et maléfiques, ça serait peut-être pas mal. On pourrait peut-être se servir de ça à la journée du 29 pour amener, que ce soit ça, la solution 21, une des solutions à rajouter aux propositions de territoire zéro chômeur, de favoriser l'émergence d'une autre société.
Ça n'a pas été voté par le gouvernement.
Oui, mais...
Il faut trouver du travail qui n'est pas... Bon, eh ben, celui-là, ça n'est un qui n'est pas répertorié comme un travail...
De la pression de propagande.
Oui. Un travail de réflexion.
Voilà. C'est mieux propagande.
Oui, mais là...
Chez les Grecs, le travail politique, c'était le seul travail qui compte vraiment, qui était honorifique. Tout le boulot à la main, tout ça, c'est pour les esclaves. Le travail politique, ça, si on rémunère... les gens qui réfléchissent à changer la société et l'économie. Ce serait un très bon moyen.
Il n'y a pas. Peut-être qu'il y aurait un rond à rajouter, la création de think tanks, c'est le mot anglais, je ne connais pas le mot français, avec des mecs payés par le RSA pour changer le monde. Mais comme dit Léna, le travail de réflexion qui n'existe pas, qui existe.
Et qui ne va pas marcher.
Il y a des travaux universitaires là-dessus.
Ah oui,
il y a des bouquins qu'on a vendus là-dessus. Okay. Celui-là, peut-être même. Là, tu vois.
Tiens, celui-là. Là.
Celui-là, là.
Peut-être.
Il y a déjà.
Lise celui-là, tu verras. C'est intéressant.
Après, il se rémunère, assure effectivement, en vendant un bouquin par le droit d'auteur. Ils ne sont pas rémunérés par le droit d'auteur.
Ouais. Est-ce qu'on peut embaucher quelqu'un pour aider une autre association de faire son travail?
Pourquoi pas?
Parce qu'à un moment donné, en Allemagne, il y avait un très bon loi, malheureusement, ça date déjà des années 90. On pouvait embaucher des jeunes gens qui venaient de l'université, qui ne trouvent pas tout de suite du travail. Ils avaient le droit de bosser pendant 2 ans pour des associations.
Vous leur pouvez aider?
C'était un emploi aidé, mais ça aidait beaucoup à de la travail pour le tiers-monde, pour Nicaragua.
On a le service civique.
Oui, le service
civique. On a le service civique aujourd'hui qui joue ce
rôle-là. Non,
mais oui, mais je donne en France, on a le service civique qui joue ce rôle-là.
Oui, mais qui ne permet pas de vivre.
Mais non, non, puisqu'il y a 500 euros par mois.
Non, c'est vraiment d'organiser des campagnes d'information, de voyage.
Une question.
Oui, moi ce que j'entends, mais je suis arrivée hyper tard, donc je ne suis pas tellement. Je
ne
vais pas parler d'ailleurs parce que je n'ai pas tout entendu, donc c'est pas bien. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a une vision politique et il y a une vision humaniste. C'est-à-dire, je ne pense pas que les deux soient contradictoires. C'est-à-dire que dans notre parcours, on peut avoir. On peut se sentir porter des valeurs qui vont nous amener à accompagner des personnes pour qu'elles soient mieux dans leur vie. Donc ça, on peut le faire. Et après, il y a la vision. On peut aussi avoir une vision politique et se dire que ce qu'on fait, ça ne sert à rien, que ça ne changera pas les choses. Mais d'avoir aidé peut-être quelques personnes pendant un moment dans ta vie, ça peut te... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... c'est pas contradictoire. Les deux démarches sont pas contradictoires. Il faudrait pas se taper dessus quand même, parce que on est dans la même optique. C'est la grande idée humaniste, quoi. C'est que c'est l'humain avant tout, et on peut le faire individuellement. Pour moi, il y a une démarche individuelle où on se fait du bien et où on fait du bien à l'autre. On va l'accompagner, on va essayer d'accompagner l'autre. Et puis, il y a la démarche politique où c'est sûr qu'il faudrait tout casser et puis refaire tout ça autrement.
La question sous-jacente là-bas, je vous termine pour la parole, c'est plutôt du style, si je mets l'énergie là, je n'aurai peut-être pas pour autre chose. Alors, quelle est la priorité?
On peut se partager.
J'en dis pas plus, mais moi, je me sens comme ça.
Alors, moi, je disais simplement que le système tel qu'il est présenté là me semble présenter des difficultés parce qu'il est plutôt économique. Et effectivement, il y a un problème politique qui se pose. Or là, c'est de plus en plus dans notre monde actuel, c'est l'économique qui prime sur le politique. Alors que normalement, ça devrait être le gouvernement de la cité, le politique, le bien de l'individu qui gère l'économie. Mais c'est exactement le contraire qui se produit dans notre société. Exactement. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on renverse les valeurs.
Mais l'analyse est partagée ici aussi.
Mais je le sais bien. Je le sais bien. Je tiens à ce que les choses soient claires. C'est tout.
Bien sûr.
Oui. Il se pose in fine la question, au-delà de mes bons sentiments et de mes belles paroles, qu'est-ce que je fais individuellement pour les gens qui sont au chômage?
Exactement.
Du temps où je bossais, moi j'avais une attitude qui consistait à exiger de travailler en équipe complète dans l'entreprise de service public où j'étais. Et malheureusement, je crois que j'étais un des rares. On a laissé filer des tas de CDD, à propos desquels je n'ose plus aujourd'hui prendre des nouvelles, parce que j'ai peur de savoir ce qu'ils sont devenus ou pas devenus. Et je pense qu'on aurait pu sauver des dizaines, des centaines d'emplois dans cette entreprise de service public où j'étais. Voilà. Bon, quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, mais si, que je crois quand même à la combativité des salariés au sein des entreprises pour sauver des emplois.
C'est très éclairant ce que vous dites. Je crois. Bien sûr.
Est-ce qu'on a fait notre petit tour ce soir de la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent? Et de toute façon, il y a une suite.
Voilà.
Suite,
on attend la suite.
Il y aura un autre public que celui de ce soir aussi. Et ça sera peut-être pas si facile, la spontanéité dans le dialogue. On est limité, effectivement, il n'y a pas d'élus, puisqu'on va faire quand même appel aux élus dans ce projet-là.
Absolument. Sans les élus, on ne peut pas réussir quoi que ce soit là, en l'occurrence. Et nous avons programmé pour le 21 octobre l'invitation d'énormément d'élus. Ça a été de la présidente de la région Occitanie, en passant par le département, les maires, monsieur le préfet a reçu aussi une invitation. Bien sûr, tous les acteurs de l'emploi sont invités, les gens qui sont en lien avec les salariés, aussi bien les syndicats patronaux que les syndicats des salariés. Enfin, on a invité, on a informé énormément de monde pour cette journée du 21 octobre. Donc, moi, je vous invite très fort à être là pour poser vos questions, en profiter pour poser vos questions. Et puis que ce soit vraiment un moment qui va donner la parole d'abord déjà aux acteurs qui sont déjà dans cette action, et puis aussi à des témoins qui sont aussi dans l'action au niveau des territoires. Alors, on peut penser, espérer que émergera à la fin de cette journée plus que des réflexions.
Une question là. Tu dis qu'on a invité les élus, les élus ont été invités. Est-ce que tu penses que déjà un pré-recensement des 200 ou 300 chômeurs longue durée du bassin Marcillac-Conques ont pu être avertis? Ça aurait été super si, dès la création d'un projet comme ça, déjà une partie des gens qui éventuellement pourraient être...
Point emploi et l'ADEL se charge d'informer de ce moment du 21 octobre.
Ok.
Voilà. Aussi, évidemment, forcément. Mm-hmm. Et il y aura la parole aussi pour au moins une personne qui a eu un parcours ou qui est encore dans un parcours de... disons de retrouver un emploi au travers de SNC, Solidarité Nouvelle face au chômage, car il faut savoir que ATD Carbon n'est pas seul à être dans cette action-là, mais on a des partenaires et entre autres on a aussi un représentant ici du pacte civique, vous avez peut-être entendu parler, et puis il y a autrement le Secours catholique, il y a Emmaüs qui sont aussi partenaires de cette grande dynamique-là. Voilà, donc sachez que c'est pas seulement le mouvement ATD Carmonde, mais évidemment le mouvement a quand même pris sa part au départ, quoi, pour que ça devienne ce qui est là aujourd'hui. Voilà, alors peut-être pour terminer, le 26 octobre, il y a la grève du chômage. C'est-à-dire que si vous avez des amis autour de vous qui sont au chômage, eh bien, ils peuvent peut-être aller se présenter à la mairie, à leur mairie, je sais pas, une association, leur dire, écoutez, je suis au chômage, je voudrais travailler aujourd'hui, parce que c'est la grève du chômage. Donc notez le 26 octobre.
On peut même le 26 octobre les embaucher pour le jeudi en question.
Eh bien, pourquoi pas. Voilà, donc n'oubliez pas de de marquer sur votre agenda 26 octobre.
C'est un jeudi ?
Oui, c'est un jeudi, le 26 octobre. Oui.
Voilà.
Nous traiterons du sujet de la SCOP, entreprise autrement.
Allô ? Entreprise autrement.
Et donc, on aura une évolution. À partir de l'idée jusqu'à la réalisation, une réalisation sociale.
Bon, merci à tout le monde. Merci à Claude.